Mario Casar Oriental. Je répète totalement ce que tu
dis. Moi, c'est une de combattie au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de participer à ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Le monde célèbre le 26 janvier de chaque année la journée mondiale de la douane. En marge de cette journée, Parole aux auditeurs relance donc les débats sur la fraude douanière. Selon certains observateurs, celle-ci constitue un grand défi à relever pour le système douanier congolais. Depuis 2011, l'État congolais assainit déjà les services publics dans les secteurs pour y arriver. Au Katanga, par exemple, le mois de décembre dernier, le ministre des Finances a instruit la direction générale de la DGDA, après avoir fait aussi ce constat, de procéder notamment à la suspension de certains inspecteurs en poste à Kasumbalesa. Comment faire pour améliorer les systèmes douaniers en République démocratique du Congo? Vous pouvez participer à cette émission en composant les 081-890-63-15 pour votre participation en direct. Et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Toute équipe est là pour vous tenir compagnie. Alain Goy est à la technique. César Gilu Bongonda et Piero Elamegi sont à la réalisation de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Léonard Moulamba. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons en ligne professeur Bobo Kayembe, Mathias, vous êtes fiscaliste, bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, la douane congolaise participe aux environs de autour de 40% dans les recettes publiques. D'un côté, de l'autre côté, on parle de la fraude. Comment expliquerez-vous ces paradoxes?
Oui, merci beaucoup. La douane est un service important de l'État qui contribue de manière substantielle au budget de l'État, comme vous l'avez dit. Et je crois que, avant de parler de la fraude, on doit reconnaître que la douane rend un service important au pays. Maintenant, il y a la fraude dont vous parlez. Oui, effectivement, il y a la fraude. Et cette fraude se caractérise bien souvent par des fausses déclarations, des sous-évaluations, l'utilisation des fausses factures, des choses comme ça, pour rabaisser le montant des droits à payer à l'État. Et je pense que cette fraude implique une participation qui est, disons, commune entre les agents de douane, certains agents de douane. Je voudrais pas dire que tous les agents sont impliqués dans la fraude. Il y a beaucoup d'agents qui font un travail de qualité au sein de la douane. Mais il y a peut-être certains agents qui sont de connivence avec les importateurs pour réduire le montant que l'État doit recevoir. À mon avis, il y a quatre causes, je peux relever quatre causes de la fraude. La première cause, elle est d'ordre légal. C'est que les différentes lois ont mis en place au niveau des frontières, ont mis un nombre de perceptions qui est très important, qui fait que lorsqu'on met toutes ces perceptions ensemble, ça représente un coût important. D'où les importateurs sont obligés de passer par la fraude pour faire entrer leurs marchandises, parce que ce ne serait pas possible de payer tous les droits qui sont prévus. Parce qu'il y a des droits qui reviennent à la DGDA, il y a des droits qui reviennent à la DGI, à la
DGRAD,
et à d'autres services de l'État. Donc quand on met tout ça ensemble, ça fait une charge très très importante. D'où il faut passer par la fraude pour faire entrer les marchandises. Une autre cause, d'après moi, elle tient à l'infrastructure. Si nous prenons, par exemple, Kasumbalesa, on peut dire quand même que les gens vivent là-dedans tout à fait confinés. Et alors quand il y a un espace très réduit et qui a un volume important de trucks et de autres véhicules qui viennent sur un espace très réduit, et ça favorise également
la fraude.
Je crois que, notamment à Katumbalé, ça, j'ai toujours pensé qu'il faut multiplier le bureau de douane. Ça ne doit pas être un seul bureau. On doit avoir, par exemple, deux ou trois bureaux qui traitent les marchandises qui entrent, et deux ou trois bureaux qui traitent les marchandises qui vont à l'exportation, sur des espaces qui peuvent être différents. On peut dévier les routes pour que les gens qui vont à l'exportation aient leur point de passage différent de ceux qui viennent à l'importation. De même, je crois qu'au port de Matadi, on doit reconnaître aussi que les gens vivent de manière étroite, de manière étriquée là. Il y a plusieurs services, il y a plusieurs personnes qui entrent dans le port et ça crée une ambiance favorable à la fraude. Je crois également qu'il y a une cause logistique, certainement que les agents n'ont toujours pas la logistique nécessaire pour faire face à la fraude. Parce que dans certains pays, la douane, elle a même des avions. Elle a des avions, elle a des vedettes pour circuler sur des lacs et des fleuves. Elle a tous les moyens logistiques nécessaires et même les agents de douane, ils sont armés. Ils ont les fusils pour faire face aux fraudeurs. Je ne crois que cette logistique n'est toujours pas là au profit des agents de la DGDA. Et la dernière cause, elle est, à mon avis, d'ordre financier. C'est tellement qu'ils ont toujours qu'ils n'ont pas toujours les moyens d'action pour faire face à la fraude. Voilà ce que j'ai comme idée. Et je crois qu'on doit travailler sur les quatre
causes
volets que j'ai indiqués ici pour éradiquer la fraude.
Voilà. Alors, d'une part, il y a certains qui, au fait, après avoir regardé un peu les systèmes douaniers ces derniers temps, on a remarqué quand même beaucoup d'efforts qui ont été consentis de la part du gouvernement congolais au travers de ses services douaniers, notamment la DGDA, avec ces nouveaux mécanismes de lutte contre la fraude. Je parle là de Sidonia, la douane sans papier, où tout est informatisé. Il y a eu également beaucoup de conventions qui ont été signées avec nos frontières, parce que la plus grande raison aussi, nos frontières sont très poreuses, mais tous ces efforts, on a l'impression que les résultats sont loin d'être escomptés.
Bon, je pense que il ne faut pas non plus exagérer. Il faut quand même, comme j'ai commencé par le faire, reconnaître les efforts que les agents sont en train de fournir. Mais je crois que la douane s'occupe du mouvement de marchandises à l'exportation et à l'importation. Pour faire beaucoup de recettes, il faut commencer par augmenter le volume des marchandises à l'exportation, par exemple, augmenter aussi le volume des marchandises payantes à l'importation. Parce que si nous n'exportons plus de café, pas de cacao, pas de thé, pas de bois, pas suffisamment de bois, nous n'avons pas de produits manufacturés que nous exportons, il faut reconnaître que les recettes ne seront pas à la hauteur de nos attentes. Et nous devons travailler tout d'abord pour augmenter le volume de café dans notre pays, pour espérer faire beaucoup de recettes. Moi, je crois que c'est ça.
Ce sera l'idéal.
Sinon, ils ont fait des efforts. La nouvelle loi douanière, c'est une loi qui est propice, disons, à la facilitation du commerce. Bon, on peut maintenant faire une déclaration par Internet sans être présent soi-même là-bas. Mais je crois que si les gens ont l'idée de la fraude, parce qu'ils se disent, en amenant ces marchandises au Congo, en payant sur le droit, ça me fera beaucoup d'argent. Si on compare à des pays voisins, où on paye par exemple 2 000 $ pour avoir un conteneur, et que chez nous il faut 8 000 $ pour avoir un conteneur, même si on fait une déclaration online, on sera toujours tenté de faire la fraude, de faire des fausses factures, des choses comme ça pour essayer de payer moins. Donc il faut, à mon avis, travailler sur le coût global de ce que les gens payent pour réduire ce coût-là, afin de réduire
la 081-893-315 pour votre intervention en direct. Nous vous gardons, professeur Bobo Kayembe, Mathias, restez en ligne. Il est temps pour nous de passer de l'autre côté du standard avec Maurice qui est à Kinshasa et Maître Joël qui est à Kinshasa également.
Écho d'économie. Sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15, heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Merci de suivre Radio Okapi, la fréquence de la paix, et merci également de participer à ce débat citoyen dans votre magazine Parole aux auditeurs. Maurice, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour aussi à votre invité.
Voilà, Maurice, je l'ai dit tantôt, le monde célèbre le 26 janvier de chaque année, la journée mondiale de la douane. En marge de cette journée, donc, nous avons relancé les débats sur la fraude douanière. Et comment faire pour, en fait, la fraude douanière qui caractérise aujourd'hui notre système douanier. Alors, comment faire pour améliorer ce système en République démocratique du Congo?
Sans en bas, d'abord, je vous dirais que, c'est d'abord, la décision se trouve au niveau de l'impunité. En fait, l'impunité qui règne dans les pays, dans tous les secteurs de la vie nationale. Alors, avant que je puisse en fait, développer ma pensée ou ma réflexion, j'aimerais d'abord poser la question à l'invité pour savoir pourquoi la douane, notre douane, est la plus chère parmi les plus chères du monde. Hein? Est-ce que cette manière de fixer les taux de douane, est-ce que ça favorise vraiment le climat des affaires? Ou est-ce que ça aide vraiment la classe moyenne quand même à pouvoir s'épanouir dans leurs activités des ports et sports? Là, c'est la première question que je pose en fait, à l'invité. Mmh. Alors, pour parler de la fraude, comment vous peignez le cas de la fraude, comme je disais tantôt, que c'est lié à l'impunité qui est en fait constatée comme mode en fait, de gouvernance dans le pays? Mais je voudrais aussi poser cette question aussi à l'invité. Il y a, je crois, un mois ou un mois et demi, qu'on a suivi à travers les médias la suspension de certains dirigeants là, de la douane au niveau de Katumbalé par Lubumbashi. Alors, les problèmes, les Congolais ne veulent pas entendre qu'on a suspendu à cause de la fraude, à cause du détournement, parce que ça se fait, c'est la chanson, c'est même les motifs. Des gens qui veulent quand même nous distraire par ce genre de sanctions ou de décisions. Mais ce que nous voulons savoir, qu'est-ce qu'on fait de ces gens? Parce qu'on a compris qu'on a suspendu. Ils ont été suspendus pour cause de détournement. Ils ont détourné quoi et ils ont détourné à hauteur de combien? Ça, ce sont des questions que le Congrès voudrait savoir. Et de deux. On a toujours suspendu. La fois, il y a, je crois, quelques mois également à Katanga. On avait toujours pris le limogeage, je crois, du directeur général de la Cécamine. Et on a parlé de plusieurs dizaines de millions de dollars américains détournés. Et jusqu'à présent, on a juste suivi cela. Il a été suspendu à cause des détournements de plusieurs millions de dollars américains. Mais qu'est-ce qu'il est devenu ce monsieur? Mais la justice est là. Et les suspensions, donc au niveau de l'administration, donc suspension juste administrative. Mais la justice ne sait pas au fait de se prononcer sur ce cas pour expliquer aux gens, aux Congolais, que voilà ce qui s'est passé, il a été tourné autant, il a été jugé et il est condamné. Et il est par exemple en prison, cette prison. Mais c'est ça en fait le travail qui a été fait.
Oui.
Au lieu qu'on annonce
par exemple
Maurice.
Oui, parce que vous avez évoqué ce qui caractérise le système douanier en République démocratique du Congo. Pour vous, c'est l'impunité. Les gens détournent, ils ne sont pas inquiétés. C'est vrai, mais il y a l'aspect la fraude qui demeure jusque-là. Alors, vous pensez que si jamais un mécanisme efficace, et surtout que nous sommes autour de code douanier qui a été modifié, voilà, donc, est-ce qu'on peut arriver quand même à la fraude zéro aujourd'hui, parce que la douane contribue d'une manière substantielle aux recettes de l'État?
Mais fraude zéro, c'est donc ce que c'est comme délivré. Donc, on peut arriver à la fraude zéro aussi si réellement il y a une certaine volonté politique qui est exprimée. lorsqu'on sait punir, on sait vraiment réprimer les antivaleurs, comme notamment la fraude et la corruption dont on fait allusion aujourd'hui. Mais dès lors que ces antivaleurs sont en fait canettés, hein, les gens qui détournent, les gens qui pillent ces pays sont là et ne sont pas inquiétés, ils sont suspendus aujourd'hui et demain ils sont récupérés dans notre attention. C'est ce que nous déplorons en fait. C'est comme par exemple, vous avez vu par exemple dans l'armée, par exemple dans notre armée, il y a eu des rapports crédibles qui expliquaient l'implication de certains hors officiers dans les trafics d'armes avec les ennemis.
Voilà, merci beaucoup. Donc, Maurice. On risque de vous faire de la madame. Voilà, oui, revenons un peu au sujet. Merci Maurice, parce que vous avez évoqué des cas d'impunité. Nous avons vu pour les cas d'espèces, il n'y a pas que les Katanga. Il y a quelques années, donc deux ans avant, il y a eu la même situation dans les Bas-Congo. Lorsqu'on a remarqué l'écart au niveau de la DGDA, il y a eu des directeurs et des sous-directeurs qui ont été suspendus. Et aujourd'hui, même parmi eux, ceux qui avaient fait plus de 3, 4, 5 ans même poste, qui devaient au fait subir un peu l'exercice de cette loi. Il devait être permis. Donc je crois qu'à ce moment-là, il y a eu un travail qui est fait, qui doit être aussi salué par la population, pour permettre à ce que les systèmes douaniers fonctionnent. Et j'avais posé tout à l'heure la question à notre invité, les conventions. Il y a beaucoup de conventions qui ont été signées entre la DGDA et aussi les services douaniers de l'Angola et d'autres pays frontaliers. Aujourd'hui, c'est vrai, on ne sent pas. Est-ce que vous avez peut-être imaginé un scénario? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne sent pas ces résultats?
Merci beaucoup. Donc, il y a effectivement des conventions qui sont signées avec des pays comme l'Angola ou je ne sais quel autre pays, mais je crois qu'il faut des conventions avec des pays qui sont destinataires de marchandises du Congo. Par exemple, une convention avec la Belgique sur les exportations du diamant congolais, parce qu'on sait que le diamant congolais passe par Anvers. On pourrait signer une convention avec la Belgique pour qu'elle nous donne des informations sur les Congolais qui exportent le diamant en Belgique. À ce moment-là, on pourrait faire la comparaison entre les déclarations que ces gens font auprès de notre douane et celles qu'ils font auprès de la douane belge. À supposer que la douane belge puisse collaborer sincèrement dans le cadre d'une telle convention, ça permettrait d'avoir une visibilité de tout ce que les gens font dans des secteurs bien déterminés. Donc, je crois que les conventions avec des pays comme la Belgique, comme
l'Angola, ou encore d'autres pays,
L'Angola, un peu moins, parce qu'il n'y a pas un grand volume des affaires entre l'Angola et nous. Mais l'Afrique du Sud, par exemple, oui, ou bien la Chine, où nous allons acheter, si la Chine pouvait collaborer avec nous pour nous donner les volumes réels des marchandises qui sont achetées par les Congolais dans ce pays-là, ça permettrait de pouvoir avoir une bonne
chance. Améliorer.
C'est ce que les gens aiment, par exemple. Oui.
Voilà. Alors, Maître Joël, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Maître Joël.
Merci. Bonjour à vous aussi.
Oui, vous avez la parole, Maître Joël.
Bon, disons, les agents, de ce service-là que vous venez de faire allusion, la DGDA, ce sont des riches ici au Congo, hein, ce sont des riches. Il n'y a pas seulement fraude, mais aussi il y a l'exploitation de la population. Parce que vous devez avoir, vous devez comprendre que même les PELA que la loi demande pour qu'un produit puisse, une marchandise puisse entrer ou sortir sur notre territoire, n'entre même pas dans la caisse de l'État. Et puis, il y a des taxations. Hein. Vous arrivez là-bas, les taux qui est prévu pour que les propriétaires de la marchandise versent au-delà et ce sont déjà des agents qui en profitent vraiment. Et c'est ce qui fait même qu'on traite notre taux, un taux élevé. Non, moi je pense que non. Sauf qu'il y a des manipulations au niveau des ports. C'est ce qui fait que les remplacements, à mon avis, c'était une bonne chose de remplacer tous ces gens-là que nous qualifions de corrompus par les gens honnêtes. Mais est-ce qu'ils sont là? C'est ça la grande question. Vous allez remplacer, mais si ça arrivait qu'on a des gens honnêtes qui se contentent d'appliquer la loi, on peut trouver une solution à ce que, disons, l'argent puisse entrer dans la trésor, dans la caisse de l'État, mais aussi la population ne soit plus manipulée pour qu'on puisse favoriser la circulation et surtout l'entrée des produits sur notre territoire.
Merci beaucoup.
Oui,
allez-y. Vous avez encore quelque chose à ajouter, M. Joël?
Oui, j'en ai aussi dit y a un autre problème, il y a un problème de trafic d'influence là sur place là. Hein, c'est lorsque vous arrivez à ces gens-là qui les produits ne sont jamais taxables. Hein, parce qu'ils ont des neigers là-bas, ils ont des agents là-bas, mais aussi des courtiers, de ces gens-là qui s'interposent entre ceux qui sont censés dédouaner leurs marchandises, qui aussi, suite à l'ignorance de la population, font du n'importe quoi, font du n'importe quoi. Et parce que vous avez parlé aussi des assises, parce qu'il y a droit à douane, on dit douane et assises.
Oui.
Oui, oui. L'assise, les droits d'assises, c'est sur certains produits locaux qui sont contacts sur base de cette appellation-là assise. Mais je vous dis qu'aussi là-bas, il faut mettre des gens honnêtes, des taux exacts, mais aussi des gens qui auront des soucis de remplir la caisse de l'État au lieu d'embellir, de quitter leur maison. Et il faut arriver dans leurs locaux, hein, vous verrez. Ils n'arrivent même pas à, ne serait-ce qu'à ménager là où ils travaillent. L'argent qui entre, c'est pour aller nourrir leur famille. Et vous avez parlé aussi des conventions de notre État, parce que sur le plan des textes, je ne vous mens pas, nous avons des meilleurs textes sur les droits fiscaux, les droits des douanes ici. Il y a même plusieurs conventions que nous avions y signé avec les pays de la sous-région, les pays du monde. L'objectif, c'était de favoriser la circulation de en allégeant les taux qui seraient applicables sur les territoires concernés. Mais vous verrez que non, avant d'arriver à ce stade-là de libéraliser, en sorte de libre d'alléger ces échos, nous ne sommes pas encore à ce stade-là, parce qu'il y a des étapes qu'il faut créer avant d'arriver à cette étape-là de libérer le secteur douanier aux États parties. Il y a même les marchés communs, et vous savez, il y a des projets, il faut voir les économistes, ils vont vous dire, il faut d'abord créer un marché commun, nous ne sommes même pas, il n'existe pas, même pas un marché commun de la sous-région, et puis, il faut la libre circulation des biens, des trucs comme ça, il faut même aller créer un front commun de dédouanement des produits. Moi, je pense que nous ne sommes pas encore assez.
Oui, maître Joël, mais nous sommes membres de la SADEC, nous sommes membres de CRGL, nous sommes membres de plusieurs organisations, même plusieurs marchés communs dans la sous-région et dans la région.
Oui, mais ces organisations-là ont des objectifs à atteindre. Mais je veux vous dire que non, juste là. Et ce sont des objectifs qui sont pas encore atteints, comme je vous ai dit là. Mm-hmm. Comment on pouvait créer un marché commun? Là, parce qu'avant même d'arriver au stade de dédouanement, il fallait qu'on ait d'abord un marché commun. Et vous pouvez me dire que nous avons déjà un marché commun. Je sais pas, je peux aussi me tromper. Voilà. Mais il existe un marché commun de la sous-région.
Voilà. Merci beaucoup, Maître Joël, d'avoir appelé. Nous retenons que pour vous évoquer la question relative à la surtaxation, le trafic d'influence, et à cela vous ajoutez la problématique de la de déclarant ou encore de la déclaration. Vous souhaiterez que cela puisse s'améliorer et ça pourrait donner quand même une bouffée d'oxygène à notre système douanier qui, du reste, aujourd'hui, plusieurs observateurs qualifient donc de douane. Où la fraude bat son plein. Merci beaucoup, Maître Joël, d'avoir appelé de Kinshasa. Maître Saïlé, vous êtes à Bounia. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous avez la parole. Que faire pour améliorer le système douanier en RDC qui, selon certains observateurs, est caractérisé par la fraude?
Ok, merci beaucoup, monsieur. Je voudrais juste intervenir par rapport à la question que vous venez de me poser. Pour améliorer le système douanier dans nos frontières, premièrement, d'abord, il faut que l'État puisse prendre d'abord en charge les frais de l'État. Parce que nous voyons dans nos frontières jusqu'à maintenant, il y a des certaines frontières où il y a même des déclarants qu'on appelle ceci, des déclarants ou des services. Je ne sais pas si ce sont des services de l'État ou si ce sont des services privés qui travaillent dans des frontières et qui sont en train de faire des déclarations des véhicules, des choses et des marchandises. On ne sait pas. On ne sait pas dans cette matière où l'État va vraiment retirer nos systèmes douaniers. Et puis, deuxièmement, je voulais poser la question à notre invité, et par rapport au taux de taxation, parce que nous voyons pour le moment, par rapport à ce qui concerne les véhicules, nous voyons qu'il y a quand même des taux trop élevés pour ce qui concerne les déclarations des véhicules. Vous pouvez imaginer, pour un véhicule qui quitte l'Ouganda ou qui entre la République démocratique du Congo, et les acheteurs ou les personnes qui ont acheté le véhicule, ils sont obligés de payer plus de 51% des déclarations. 51%, c'est quand même énorme pour notre pays. C'est quand même énorme. C'est qui a acheté un véhicule pour 3 000, 5 000 $, il est obligé de payer des déclarations de 3 000 $. C'est aberrant. C'est aberrant. La raison pour laquelle les États doivent quand même structurer les services douaniers. Et puis, deuxièmement, mettre un service de contrôle permanent dans nos frontières. Parce qu'il y a des gens qui entrent avec les marchandises, il n'y a même pas de scanner dans nos frontières, on ne sait pas. Surtout prenons l'exemple des gros véhicules qui transportent des marchandises. On ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur, c'est-à-dire de quelle marchandise qui est à l'intérieur des conteneurs, on ne sait pas. Et avec les gens des pratiques, il y aura toujours à faire. Les gens vont toujours commencer à répéter, vont toujours commencer à plaider à tout moment, pendant que c'est lui-même qui doit être à l'auteur de tous ces
histoires. Voilà, merci beaucoup Maître Saïlé. Là, vous évoquez la question relative à la volonté politique, comme l'ont également évoqué vos prédécesseurs, Maître Joël, Maurice, ainsi que d'autres qui ont intervenu avant vous. Et là, nous retenons qu'il s'agit donc de plusieurs problèmes et aussi des préalables pour arriver à améliorer le système douanier en République démocratique du Congo. 081-890-6315 pour votre intervention directe.
Votre radio vous propose chaque après-midi, du lundi au vendredi, 3 heures de découverte. De 13h à 16h, partie à la découverte de recettes, des femmes et des jeunes toutes distinctes. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants, regards d'avenir et point de vue des jeunes. Laissez-vous guider par des balades en zigzag, un geste de culture et beaucoup de musique. Nous répondons également à vos questions. 13h, 16h, découverte, le total de l'après-midi sur Radio Okapi. Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiokapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Merci de participer à cet échange citoyen autour de la douane, parce qu'aujourd'hui, 26 janvier, nous célébrons donc la journée mondiale de la douane. Et à marge de cette journée, donc, nous relançons les débats sur la fraude douanière, et selon certains observateurs, celle-ci constitue un grand défi à relever pour le système douanier congolais. Franck, vous êtes à Vienne, nous vous gardons en ligne. Professeur Bobois Kayembe, nous revenons à vous. Après avoir écouté les uns et les autres, il y a des propos, au fait, trop de préoccupations par rapport à leurs propos. Il y a la problématique de la fiscalité qui est déclarative. Il y a également le problème des marchés communs qui ont été évoqués, la taxation, la sous-taxation avec 51% des taux de taxation, le contrôle permanent qui doit être démis, et puis là, c'est le cas d'impunité. Beaucoup de problèmes posés par les auditeurs. Alors, que répondez-vous aux uns aux autres, professeur Bobo Kayembe?
Merci beaucoup. Il y a beaucoup de points qui ont été épinglés là, qui sont intéressants, et beaucoup de propos qui sont également intéressants. Je voudrais peut-être prendre deux ou trois en ce qui concerne la volonté politique. Je crois que la volonté politique existe effectivement. Lorsqu'on voit l'intérêt que les responsables du pays accordent à cette question-là, c'est le Premier ministre qui est parti au Bas-Congo tout d'abord pour essayer d'assainir la situation dans le port de Matadi. Ensuite, il a été à Sotumbalesa avec le ministre des Finances. Je pense que la volonté politique existe. Mais je crois aussi que cette volonté politique, il faut l'exprimer également dans les réformes qu'il faut introduire dans la douane. Et ces réformes doivent notamment viser les taux d'imposition qui sont appliqués dans la douane, parce que je suis sûr que la réduction des taux d'impôt permettra d'augmenter la quantité, donc le volume des marchandises qui peuvent passer par la douane, et ça permettra également de percevoir plus d'argent avec des taux très élevés, comme M. Chahil l'a dit. Et quand on a des taux très très élevés, ça a comme conséquence de réduire le volume de marchandises qui vont entrer. Ça a comme conséquence également de pouvoir décourager les exportateurs de marchandises congolaises vers l'étranger, alors que tous les pays dans le monde luttent pour exporter davantage vers d'autres pays. Donc, ces réformes-là mériteraient d'être faites. En ce qui concerne le marché commun, il n'existe pas encore de marché commun dans lequel notre pays a adhéré et qui a une politique commune au niveau de la douane. On aurait un taux commun de douane à travers tous ces pays-là. Ça résoudrait notamment la question des taux d'imposition qui sont appliqués. Mais il y aurait la liberté de circulation de marchandises produites dans différents pays, par exemple la SADC ou le Cometa. Ces marchandises-là circuleraient sans payer la douane. Ça aurait comme conséquence de réduire les prix dans les marchés et ça nous mettrait aussi dans une compétition qui nous amènerait à penser à produire également, être un pays producteur pour pouvoir exporter vers les autres. On a épinglé la question de commissionnaire en douane ou déclarant. Je pense effectivement que ces gens-là contribuent aussi pour beaucoup dans la cause. Parce que il faut voir l'argent qu'ils réclament aux importateurs. Parfois, ils réclament deux fois plus d'argent qu'il en faut, ou trois fois plus d'argent qu'il en faut. Ils vont verser peu à la douane et le reste, ils gardent par devers. Finalement, c'est eux qui sont les grands bénéficiaires du système douanier congolais. Donc, ça nécessiterait qu'on puisse également assainir la situation dans ce secteur-là, les commissionnaires en douane et déclarants. Ce sont des grands agents de la faute. Ils connaissent déjà leurs correspondants au sein de la douane à qui ils vont donner de l'argent pour faciliter la sortie de marchandises. Donc, je crois que l'État devrait, cibler des personnes qui sont honnêtes et qui peuvent faire ce travail-là, qui peuvent être assermentées, reconnues par le tribunal du commerce pour pouvoir faire.
Professeur, parce que Olivier, aujourd'hui, c'est vrai, nous avons vu à un certain moment, on a accusé certains responsables, même des services de la douane, d'être quand même des responsables des agences.
Oui.
Voilà, donc des douanes, donc des déclarants. Et ce qui fait que le mécanisme mafieux, ou en tout cas les réseaux mafieux, pouvaient ne plus que perdurer et persister.
Mais je crois que c'est là qu'on devait voir la volonté de changement. Parce que de telles personnes, de tels agents, à la fois agents et déclarants, et ils sont connus. Normalement, on devrait sortir de la douane. Ils devraient quitter la douane pour faire le travail privé et calmement. Donc, je crois qu'il y a des choses qu'il faut faire pour atténuer la situation dans ce service-là.
Voilà, merci beaucoup. Alors, il y a la question sur la fiscalité qui est déclarative, donc vous l'avez essayé d'épingler, mais est-ce qu'aujourd'hui, parmi les réformes, vous pensez que la priorité, c'est de revoir aussi cet aspect des choses, parce que dans bien des cas, les importateurs ou encore les opérateurs économiques ne déclarent pas vraiment ce qui devait être déclaré.
Oui, la fiscalité déclarative, on ne peut pas changer ça. Donc, tout le système fiscal dans un pays est déclaratif. C'est que l'assujetti, c'est lui qui doit faire connaître à l'administration ce qu'il a comme matière imposable et il va calculer lui-même pour dire à l'administration, je dois vous payer autant. Mais l'administration a le droit de vérifier, de faire la vérification. Il y a des vérificateurs de douane qui vont ouvrir les conteneurs, compter, tout ça pour s'assurer que ce qui est inscrit dans la déclaration correspond exactement à la déclaration. Donc, le système ne peut qu'être déclaratif. Et je crois que on a aussi mis en place un système qui permet de faire des paiements par la banque. Lorsque vous déclarez, l'administration vérifie, s'assure que tout est correct, que vous allez payer à la douane. Vous n'êtes plus payé aujourd'hui auprès des agents comme dans le
passé.
Mais dans ce système déclaratif-là, il faut voir qu'est-ce que vous déclarez et quelle est la capacité réelle d'une administration pour contester ce que vous déclarez. Est-ce qu'elle a la capacité de contester? Normalement, à un certain moment, on appliquait des forfaits. Il y avait un système forfaitaire. Alors, vous importez un véhicule de telle année, on sait que
vous devez payer 2 000 dollars ou 1 500 dollars. On devait établir des portées comme ça permettait d'aller vite. Et on trouve beaucoup de véhicules à façon balai, ceux qui attendent. Alors qu'en appliquant le forfait, tout un véhicule pourra entrer sans problème. Voilà.
Professeur, on va revenir, mais il y a un autre aspect, c'est la traçabilité des marchandises, avec cette histoire, l'instauration de l'intermédiaire douanier, notamment le bivac. On va voir, peut-être, vous avez parlé aussi des coopérations avec la Belgique, mais on va revenir le temps d'accueillir également d'autres auditeurs qui nous ont rejoints et qui nous ont appelés d'ailleurs de très loin. Il y a Franck qui est à Vienne et Madame Joséphine à Boston aux États-Unis. Franck, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour aux chers invités.
Voilà, merci d'être avec nous. Quel est votre point de vue?
Merci beaucoup. Je n'ai pas suivi le débat de tout le début, mais je crois que par rapport à ce que je viens d'entendre ici, on peut déjà dire au fort que le système douanier de Chemin est plein de tracasseries bureaucratiques. Et par rapport aux efforts qu'ils sont en train de faire, on peut reconnaître quand même qu'il y a quelque chose qui est déjà en marche. Mais encore beaucoup de réseaux de fraude et d'irrégularité, si bien que tant qu'il y a encore beaucoup de fraude comme ça, c'est toujours l'État congolais qui en sort perdant. Il faudrait peut-être qu'on pense à informatiser le système, parce que si le système est bien informatisé, on pourrait quand même combattre des réseaux de fraude qui sont là-bas. Et parfois, on nous fait payer beaucoup de trucs, mais on se demande si tout ce que les gens payent au niveau de nos agences douanières entre vraiment dans les caisses de l'État. Puis, c'est un des systèmes douaniers les plus chers au monde. Et dans l'entretemps, on demande aux gens d'aider le pays, mais avec un système douanier qui est un peu compliqué, qui est très plein de irrégularités, très plein de trucs qui ne font pas vraiment avancer le pays.
Oui, Franck. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, aujourd'hui, la douane contribue à 40% dans les trésors publics. La douane à elle seule.
Oui, ça contribue à 40%, mais je crois que ça pourrait encore contribuer à plus que ça. Parce que si tout ce qui sort, toutes les recettes dont on ne peut pas vraiment schématiser de traçabilité, si cela pouvait servir aux caisses de l'État, je crois que la douane pouvait encore intervenir jusqu'à certains niveaux plus élevés que ça. Donc, il y a un argent qui entre. Et nous devons aussi arriver à le dire qu'il y a aussi un bon pourcentage de cet argent qui prennent des destinations dont on ne pourrait pas vraiment dire quoi. Il y a encore des efforts à faire, mais on s'arrange vraiment à être sérieux quand on est là-bas. Puis on se rend compte que certaines nominations sont schématisées selon les affinités. On place quelqu'un là à un des postes douaniers pour qu'il fasse aussi des opérations retour à son chef, quoi. Et tant que cela sera encore de mise, ça sera toujours difficile.
Merci beaucoup, Franck, d'avoir appelé de Vienne. Madame Joséphine, vous êtes à Boston, aux États-Unis. Bonjour.
Bonjour, Radio Cathy.
Vous avez la parole, madame.
Je suis très content pour le sujet d'aujourd'hui. Et j'apprécie ce que l'invité a dit, le professeur. Bon, il semble que tout est là. Comme j'ai toujours dit, tout est là au Congo. Si vous entendez ce que le professeur a dit, il suffit seulement d'appliquer. Si on applique les 4 points que le professeur a parlé au début, tout va être bien. Moi, je vais plutôt insister sur 2 points. Le premier point, c'est, on appelle ça la high taxation. Donc, quand vous taxez plus, la personne qui doit payer les taxes, il ne paye pas. Parce que vous taxez beaucoup. Ah. Donc, il faut faire des études bien là, comme le professeur a dit, des taxes. Comme il y a des taxes, par exemple, les taxes forfaitaires. Je vais prendre l'exemple qu'on a pris dernièrement ici. Oh non, on ne va pas importer les véhicules de
d'attendre au moins de 10 ans.
À vous? Oui, oui. Vous savez quoi que les gens qui importent effectivement les véhicules de plus de 10 ans, on applique la taxe plus sur les gens là qui respectent la loi. Et les autres, mais tu verras que les autres véhicules de plus de 10 ans entrent pour faire, ça ne paye même pas. Alors ça décourage les importateurs. Donc quelqu'un dirait qu'au lieu que j'importe, vous verrez même sur les marchés qu'il y a beaucoup plus les véhicules de plus de 10 ans que de moins de 10 ans. Pourquoi? Parce que les autres ne payent pas la taxe.
Mmh.
L'application de la loi au Congo. Moi, je n'arrive pas. Il y a beaucoup de lois. Mais il faut que ça s'applique. Moi, je me demande pourquoi. Il y a aussi le problème. Il a parlé vraiment le problème de... comment c'est que le mot m'échappe.
Mm-hmm.
Le problème de bâtiments. Il a parlé même de, il y a des douanes dans d'autres pays qui ont de
matériel logistique.
C'est comme au niveau de Tachumbalé, au niveau sud, tout le sud de Congo, en commençant même par l'Angola, à partir de Kolwezi, Vitasi, Kipushi, Kachumbalé, Moukambo, il doit y avoir les points, les bureaux des taxes, le bureau des douanes, partout là-bas. Comment ça? Quand on met les bureaux des douanes partout là-bas, on ne va pas arriver au problème qu'on a eu à Kachumbalé. Ça, il y a eu 70 ou 100 ou 150 véhicules qui étaient brûlés.
Mm-hmm.
C'est parce que c'était entassé à un seul endroit. Il y a le bureau de douane, il n'y a pas la route. Vous pouvez dédouaner, vous pouvez avoir votre conteneur à partir de Dar es Salaam, vous conduisez une route très bien. Quand vous arrivez seulement au Congo, pour faire la Somalie, la Lubumbashi, c'est un problème. C'est pourquoi les gens ne paient pas la taxe. C'est quand on ne voit pas le flux des taxes.
Je vais tomber.
Pour payer les taxes de 40% sur vos véhicules importés. Mais vous n'avez pas de route. Il n'y a pas de route pour passer même les 80 km là pour arriver à Lubumbashi. Il n'y a pas. Là, ne vous attendez pas que les gens vont payer la taxe parce qu'on ne voit pas le flux. Mm-hmm. On ne voit pas le flux. L'argent de la douane, ça va servir, ça doit servir au service douanier. Quand vous allez, par exemple, à Matadi, vous amenez votre conteneur, je ne peux pas me répéter, on taxe 10 000, 20 000 dollars. Ça n'existe pas, mes chers amis. Ça n'existe pas. Vous importez, par exemple, il y a des gens qui importent, ils achètent des friperies. 10 000 dollars, ça n'existe nulle part. Hein? Alors, le professeur a déjà parlé de 4 points. C'est question seulement d'appliquer les 4 points qu'il a parlé. Les lois existent au Congo, mais on ne les applique pas. Comment on n'arrive pas à punir? Il y a l'impunité, il y a la corruption. Comment on n'arrive pas à punir les gens qui corrompent? C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à punir les gens qui corrompent parce qu'eux-mêmes, là, qui finissent les autres, ils sont corrompus aussi.
Voilà, merci beaucoup, madame.
C'est ça le grand problème au Congo.
Tout à fait.
C'est ça le grand problème au Congo. On dit, OK, on a chassé les autres directeurs des douanes, on les remplace. Et puis, c'est fini. Pourquoi ne pas suivre? Toi, tu travaillais, tu avais 400, 700 dollars de salaire. Comment tu te retrouves avec... On prend ces histoires, on les vend, on investit sur la route, on investit à construire d'autres points de douane.
Mm-hmm.
Et on doit montrer, c'est l'argent de la population, c'est l'argent de l'État, tout doit être clair.
Oui, voilà, on sait qu'au niveau de la DGDA, il y a certains agents qui signent quand même les contrats de performance. Et aujourd'hui même, à l'occasion de cette journée, il y a quelques-uns qui sont primés, ou en tout cas, ils reçoivent d'ailleurs la prime d'encouragement auprès de la direction générale de la des douanes et accises. Donc, pour dire, il y a quand même quelques-uns qui se démarquent ou qui se distinguent par rapport à leur travail. Merci beaucoup. Alors, on va prendre Augustin Goudilois, qui est expert à la direction de lutte contre la douane. Augustin Coudilois, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, bonjour monsieur.
Voilà, vous avez appelé et vous nous avez dit que votre direction, c'est un service privé qui lutte contre la fraude douanière.
Négatif, c'est au sein de la DGDA même.
Voilà, allez-y, maintenant, dites-nous un peu toute ça, la problématique. Comment on arrive aujourd'hui à dire que le système douanier en RDC est caractérisé par la fraude, et vous, au niveau de la DGDA, vous avez une direction qui lutte contre la fraude. Alors, comment travaillez-vous pour arriver à minimiser ou à éradiquer ce fléau?
Merci beaucoup pour la parole, parce que, en fait, il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à dire à ce propos. Mais je salue, en passant, le professeur Gwabo Kayembe, qui a pratiquement dit l'essentiel, parce que, vous savez, c'est un sujet très important, et c'est un sujet qui pratiquement pouvait consacrer toute une émission.
Oui, si, parce que nous avons oui. prévu faire une émission sur le bilan de l'année, en tout cas des années, sur la douane en RDC, avec cette histoire de l'importation des véhicules datant de plus de 10 ans qui sont interdites, et puis voilà, autant de problèmes, mais aujourd'hui nous avons juste prêt à une partie du problème, c'est-à-dire la fraude par rapport à la contribution de la douane dans le recette de l'État.
Oui, merci beaucoup. Je disais que le professeur pratiquement a tout dit, parce que sur ce point qu'il a évoqué là, c'est comme disait d'ailleurs notre intervenant des États-Unis, il faut prendre l'essentiel. Aujourd'hui, si les gens ne reconnaissent vraiment pas ce que les autorités douanières font, c'est aussi un amalgame quand même, parce qu'en fait, dans d'autres cieux, ils évoquent beaucoup l'aspect statistique. Aujourd'hui, nous avons cet effort quand même qui est fait par les autorités de la douane. Néanmoins, comme les autres aussi l'ont dit, la fraude, vous savez, cette fraude, quelqu'un d'ailleurs a évoqué, a parlé de tolérance zéro. Mais parler de la tolérance zéro en matière de fraude, la fraude n'est pas seulement un mot congolais. Donc la fraude existe, mais chez nous devons reconnaître que le pays d'abord tel qu'il est, les gens peut-être quand ils parlent du pays, ils voient Kinshasa et les quelques provinces proches ici, mais il faut voir d'abord ce que la DGDA a implanté aujourd'hui à travers la République, et c'est cet effort qui est poursuivi par les autorités. Nous devons faire un effort, conjuguer les efforts. Au sein même de cet office, je crois que les gens reconnaîtront également qu'il y a des services internes avec lesquels, n'est-ce pas, la DGDA a signé des accords. C'est pour dire que c'est un travail aussi collégial, collectif. C'est ce que nous sommes en train de faire.
Voilà, Augustin, je crois qu'on va évoluer. Il y a eu des cas où certains agents ou responsables de la DGDA au niveau du Bas-Congo qui ont été suspendus à un certain moment. Nous avons vu à l'époque du ministre Kibol. Nous avons vu également, en tout cas, les semaines passées, le ministre des Finances, lors de son séjour à Lubumbashi, aux côtés du Premier ministre, a instruit également les responsables de la DGDA de pouvoir suspendre certains inspecteurs de la douane. Est-ce qu'au niveau de votre direction, y a-t-il eu un travail qui a été fait en amont pour que, finalement, la faute soit établie par rapport aux uns et aux autres?
Oui, c'est vrai, parce que c'est toute une direction qui a été créée pour les besoins de la cause, d'ailleurs, il y a 3 ans ou 4 ans maintenant, mais le travail est régulièrement fait, mais comme je venais de vous le dire, le pays, il est assez grand, et le travail que fait certains services spécialisés comme la brigade, par exemple, nécessite également beaucoup de préalables, comme l'a dit d'ailleurs le professeur. Mais au moment où nous parlons, je crois que les rapports sont régulièrement faits, et le travail est régulièrement fait, et qui demande également beaucoup plus d'engouement, parce que il est grand le travail, comme le pays, il est grand également.
Voilà, merci beaucoup Augustin Koudiloa d'avoir appelé. Mais alors, on reviendra peut-être à vous très prochainement, le temps de prendre Guy qui est à Kinshasa. Guy, bonjour.
Merci beaucoup.
Guy, vous êtes avec nous? Voilà, on revient à vous, professeur Bobo Kayembe Mathias.
Oui.
Voilà, vous avez suivi cette deuxième série. Comment réagissez-vous par rapport à ce que vient de dire l'expert à la direction de lutte contre la fraude de la DGDA?
Bon, j'ai noté ce qu'il a dit. Tout d'abord, le fait qu'il existe une direction de lutte contre la fraude à la DGDA. Je sais également qu'il y a la brigade douanière qui est là, qui lutte aussi contre la fraude. Je crois que il faut concevoir des contrôles. Tout service doit fonctionner avec en fonction des services de contrôle. Par exemple, qui peuvent faire la compte vérification du travail qui est fait par les douaniers qui sont sur le terrain. Il faut qu'il y ait des agents de la direction générale qui vont faire la compte vérification.
Et il y a aussi un contrôle externe qui doit se faire, c'est-à-dire le contrôle qui est fait par l'inspection générale des finances, la Cour des comptes. Si tout ce monde était contrôlé en permanence, on n'arriverait pas à des situations comme celles qui sont décriées. Bon, je suis sûr qu'ils font un grand travail. Il a parlé des statistiques. Elles sont vraiment nécessaires, les statistiques, pour pouvoir faire un bon travail également. Parce que si on connaît ce qu'exporte telle compagnie en matière de cuivre, de cobalt, si on connaît avec précision ce qu'exporte, ce que produit exporte telle compagnie, on peut déduire les recettes qu'il est appelé à payer à la douane. Mais sinon, je voudrais d'abord parler de ce qu'a dit Franck, les tracasseries bureaucratiques. Mm-hmm. Il y a beaucoup de tracasseries administratives, effectivement. Et je crois qu'il faut un changement de mentalité. Les agents de l'État doivent se dire qu'ils ne sont pas là pour faire des tracasseries aux opérateurs économiques. Ils sont là pour faciliter les activités des opérateurs. Ils doivent devenir facilitateurs plutôt que tracassiers. Parce que quand on met la tracasserie, c'est pour créer une ambiance qui est favorable à la fraude. Je crois que le nouveau code douanier introduit l'idée de facilitation et les agents devraient travailler dans cette ambiance-là. Les nominations par affinité, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Alors, dans ces agences, évidemment, on ne peut pas combattre comme il se doit la fraude.
Alors, la présence de Bivac International pour renforcer encore la traçabilité, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que ce n'est pas le moment peut-être de faire le bilan? Nous aurons une grande émission sur le bilan de la douane en RDC pendant toute cette décennie avec toutes les réformes apportées. Quel est le résultat? Mais le Bivac International pour renforcer la traçabilité, les résultats sur le terrain, professeur?
Bon, mais j'ai suivi dernièrement tous les services de douane de l'Afrique qui sont réunis, je crois qu'il y a 2 ou 3 jours. Et ils ont décidé de pouvoir mettre fin à ces contrats-là avec des services comme Bivac, parce que certainement qu'il n'y a pas eu de rendement.
Mmh.
Et ça risque, c'est apparu comme une taxe en plus de ce que les gens payent déjà. Mmh. Ils ont payé aussi à Bivac. Ça renchérit le coût de l'importation de marchandises dans notre pays face à des résultats qui sont indiscutables.
Voilà, on aurait bien souhaité avoir le responsable de la DGDA pour cette émission. Et c'est donc excusé parce que vous le savez, aujourd'hui c'est la journée mondiale de la douane. Tous sont vraiment en activité en ce moment. Il se tient d'ailleurs une cérémonie au niveau de la direction générale où on est en train d'ailleurs de sanctionner positivement les certains inspecteurs douaniers qui se sont bien comportés pendant l'année. Merci beaucoup. Alors on va prendre également, pour terminer, professeur Guy, qui est un déclarant en douane, qui nous a rejoint. Guy, vous êtes avec nous?
Oui.
Voilà, vous avez la parole, Guy, rapidement, vous n'avez qu'une minute.
Oui, donc en tout cas, je suis vraiment très en tant que cas pour l'étude d'aujourd'hui. Donc vraiment, pour la fraude douanière, en tout cas, on est fatigué de ça. Je suis déclarant en douane, mais en tant que même nous-mêmes déclarants, on n'arrive pas à travailler. Parce que la fraude, en tout cas, ça s'opère entre le portateur et le douanier lui-même. C'est-à-dire que les douaniers facilitent la fraude. Quand je prends le cas du niveau de Nord-Sud, la grande barrière, là-bas, c'est la fraude immense. C'est vraiment, tout cas, c'est incontestable. Ce sont les gens de la DGDA qui facilitent la fraude. Ce sont eux qui facilitent la portée des marchandises. Imaginez-vous que les marchandises quittent le niveau de la grande barrière pour aller en entrepôt. Il faut au
voilà,
même.
Oui, Guy, est-ce que vous avez des preuves?
Oui, effectivement.
Voilà. Si vous avez des preuves, prenez votre mal en patience. Vous avez tous les éléments. Nous allons organiser une émission spéciale par nos auditeurs pour faire les bilans de la douane à RDC. Comme ça, vous allez verser tous ces éléments dans notre rédaction. Vous pourrez voir dans quelle mesure vous orientez aussi pour faire les débats ensemble avec les responsables de la DGDA. Merci beaucoup, Guy, d'avoir appelé de Kinshasa. Nous ne manquerons pas de vous relancer prochainement. Merci. Et nous revenons à vous, professeur Bobo Kayembe. Alors, donc, vous confirmez que tout passera déjà par ces préalables-là, disons, changer un peu de cause, c'est-à-dire le respect du cadre légal, travailler sur l'infrastructure, la logistique et aussi les moyens financiers pour permettre à ces qu'on puisse redorer l'image de notre système douanier.
Oui, je confirme cela.
Voilà. Donc, ce sont les préalables par lesquels il faut passer absolument.
Oui.
Merci beaucoup, professeur Boisboi Kayembe, d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt.
Merci beaucoup, mon ami. À bientôt.
Allô? 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 Il ne répond pas?
Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Nous vous rappelons que nous avons parlé de la journée mondiale de la douane qui est célébrée le 26 janvier, donc de chaque année. Et à cette journée, nous avons relancé les débats sur la fraude douanière. Et selon certains observateurs, celle-ci constitue un grand défi à relever pour les systèmes douaniers et congolais. Depuis 2011, l'État congolais a assaini les services publics dans le secteur pour y arriver. Vous avez suivi au Katanga le mois de décembre dernier, le ministre des Finances a instruit la directeur général de la DGDA, après avoir fait aussi ses constats, de procéder notamment à la suspension de certains inspecteurs en poste à Kasumbalesa. Voilà, donc nous allons nous retrouver. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission pour trouver des voies et moyens pour améliorer les systèmes douaniers à l'RDC. Donc nous prenons rendez-vous avec vous dans un autre débat autour de la douane, en tout cas très prochainement avec les responsables de la DGDA. D'ici là, portez-vous bien. Donc je dis également merci à Alain Goy, à Pierrot et la Mégie, à Julie Pézabongoda qui ont contribué à la production de ce programme coordonné et présenté par J.R. Nguembo sous la supervision de Léonard Moulamba. À très bientôt.